Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il y a eu le générique, on peut reprendre. Dernière partie d'Estelle Midi, 14h03, ça y est. Donc je répète toute la bande quand même. Charles Magnin, Pierre Rondeau, Juliette Briens et Daniel Riolo. Dans un instant, on va parler du PDG de Ryanair qui veut interdire l'alcool dans les aéroports. Bonne ou mauvaise idée? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire ce que dénonce le PDG, à savoir boire des boissons alcoolisées vers 8h, 9h du matin? C'est ça le problème. Bah, écoutez, vous nous dites tout au 32-16 et également sur le WhatsApp, Charles.
Oui, enfin, si vous êtes sobre, vous nous écrivez.
Bah oui, c'est mieux.
Vous nous écrivez. Oui. Au 0612 424 424, et on va lire toutes vos réactions.
Il y aura le sujet préféré également, 14h25, olive verte ou olive noire, pas facile de les départager. RMC conso, Charlotte Méritant, 14h30, comment bien choisir son miel, c'est ce que nous expliquera Charlotte, et puis on terminera avec les immanquables de Charles.
On parlera de l'Indonésie qui veut interdire les sites de e-commerce aux moins de 16 ans. Il faut protéger les jeunes des escroqueries en ligne. Est-ce qu'il faut interdire aux jeunes, aux ados, de se connecter, de faire du shopping en ligne? On se posera la question. Et puis on parlera de la Coupe du Monde. Alors à la radio, ce sera évidemment sur RMC. À la télé, il y aura M6, où la Coupe du Monde sera commentée notamment par Michou. Mais oui, le streamer, youtubeur, créateur de contenu sera derrière les buts.
C'est un spécialiste de foot?
Pas du tout.
Pas vraiment, mais il sera au bord du terrain, accrédité, et notamment pour séduire les jeunes, pour les convaincre de regarder la Coupe du Monde. Il aime bien le foot, mais c'est pas un spécialiste du foot. En tout cas, ça fait débat.
La grand-mère aussi, elle aime le foot.
Oui, ça fait réagir. On en débat à 14h40.
RMC, Estelle Midi.
14h05 sur RMC, on poursuit Estelle Midi avec la proposition du jour, et c'est celle de Michael O'Leary, c'est le PDG de Ryanair, qui souhaite interdire la vente d'alcool dans les aéroports. Alors que les incidents se multiplient dans les avions et que de plus en plus de vols sont déroutés à cause de passagers en état d'ébriété, eh bien le patron de Ryanair veut en finir donc avec la prise d'alcool à l'aéroport, ou au moins, Charles, limiter.
Oui, dans cette interview au Times, il estime qu'il faudra interdire les boissons alcoolisées dans les aéroports au moins tôt le matin. Il explique que sa compagnie est contrainte de détourner presque un appareil par jour en raison du comportement de certains passagers alcoolisés. Je ne comprends absolument pas pourquoi des gens sont servis dans les bars des aéroports à 6h du matin. Qui a besoin de boire de la bière si tôt, se demande-t-il. Il propose également de limiter les passagers à 2 boissons alcoolisées maximum dans les aéroports à toute heure de la journée, en utilisant leur carte d'embarquement pour vérifier qui a consommé quoi. Selon lui, tant que quelqu'un ne provoquera pas un accident entraînant le crash d'un avion et la mort de centaines de personnes, aucun gouvernement ne prendra véritablement ce problème au sérieux. En juin dernier, Ryanair avait déjà instauré une amende de 500 euros contre les passagers dont le comportement entraîne leur débarquement de l'appareil.
Alors, Ryanair qui veut interdire l'alcool dans les aéroports, bonne ou mauvaise idée, Juliette Briens?
Mais moi, je commence en fait à en avoir marre de cette mentalité qu'on a tous à vouloir pénaliser le plus grand nombre pour le mauvais comportement d'une minorité. Donc, je suis désolée.
Qui est pénalisée par la prise d'alcool à 8h du matin?
Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on rentre dans un aéroport, on rentre dans une faille spatio-temporelle où le temps s'arrête et l'heure n'a plus d'importance. Et c'est un plaisir, voilà. Parce que on est à l'aéroport, on n'est plus dans le vrai monde, en fait. C'est le monde de l'aéroport. Et le vrai plaisir...
Ah, quand t'arrives à l'aéroport de Beauvais, c'est tellement stylé que t'es vraiment dans un autre monde.
Ou une pinte, ou un petit verre, et de picoler à l'aéroport. Et
c'est
même
un plaisir.
Et même peut-être de continuer dans l'avion pour ceux qui ont la chance d'être genre en business, etc. Et tout simplement, la solution, elle est très simple. Le trouble à l'ordre public dans un avion pour alcoolisation ou autre qui entraîne le débarquement, ça devrait se payer bien plus cher qu'une amende de 500 euros. Ça devrait être une circonstance aggravante.
Bien sûr.
On devrait expliquer que, évidemment, ça pénalise beaucoup trop de monde pour qu'on soit sur une simple amende, comme si on faisait un trouble dans la rue. C'est pas la même chose, donc il faut sévir. Il faut sévir et pas interdire à tous les autres de se prendre sa coupette au bar de l'aéroport.
Mais le problème, tu vois bien que c'est pas la coupette. C'est pas un passager qui a pris une coupette qui va faire que l'avion va être détourné.
C'est bien pour ça qu'il y a le plus grand nombre. C'est quand même gérer et s'arrêter au bon moment,
prendre un verre
et s'arrêter après parce que c'est un plaisir, parce qu'on est à l'aéroport, parce que c'est le début des vacances. C'est ça aussi. C'est
qu'en fait,
du moment,
de boire,
le moment où tu mets un pied dans l'aéroport,
tu vas me postronner à 8h du mat parce que prends l'avion.
Pour fêter le fait que tu prennes l'avion. Tes vacances ont commencé, donc t'as envie de boire un verre.
Les vacances, il faut se postronner.
C'est pas ce qu'elle dit, Daniel. Elle dit que simplement t'es à l'aéroport, tu sais que vers les vacances.
Oui, c'est trop bien.
C'est pas des familles avec enfants, c'est c'est quelqu'un qui est, c'est un couple.
Pourquoi c'est les passagers de Ryanair qui se pochronnent?
Parce qu'ils vont à Ibiza.
C'est tout le temps sur Ryanair qu'il y a des problèmes.
Parce qu'ils vont à Ibiza et tout. Et en fait,
Hier, il y a eu l'évacuation. Oui, oui. Un avion a dû faire demi-tour. C'était juste parce qu'une femme voulait absolument pas raccrocher le téléphone.
Elle aussi,
je ne comprends pas que ces gens-là, on leur fasse pas payer, mais très cher, le fait d'avoir handicapé tout le monde. Donc je rejoins Juliette sur ce point. Si le mec il veut aller picoler au bar et tout, il picole. Mais si jamais il y a la moitié d'un incident, mais alors il faut qu'il s'en souvienne à vie, hein, qu'il a créé un incident.
Après Daniel, excuse-moi, voilà, est-ce que boire des bières à 8h du matin,
mais ça,
c'est
on s'en
normal
fout. Chacun fait ce qu'il a envie. Hein,
bah non,
envie.
Non.
Si t'as envie de picoler à 8h du mat, tu picoles à 8h du mat. Moi je le fais pas, ça
imagine,
m'intéresse pas.
Imagine, t'as un jet lag complet. Pour toi, c'est pour toi,
moi,
c'est
ce
le soir.
Tu viens de Tahiti, pour c'est toi, qu'on cause des problèmes aux autres. Moi, ce que je veux pas, c'est que dans l'avion, il y ait des gens par des mauvais comportements qui demande un verre, trois verres et tout, qui commence à insulter l'hôtesse de l'air parce qu'elle veut pas lui donner le quatrième parce qu'il est postronné, et que si l'avion doit revenir en arrière parce que les cas de passagers qui à 10 sont dû se mettre sur 1 pour le calmer parce qu'il foutait le bordel, c'est également arrivé. Mais sauf que si ça arrive, je le répète, mais je vais pas me lasser de le répéter, que le type, mais avant de refaire un truc pareil, mais vraiment ils s'en souviennent quoi.
Je suis assez consterné par les discours qu'on tient ici en plateau en considérant que c'est un amusement l'alcool, que c'est le petit plaisir.
Elle a parlé d'une coupette. Hein. Oh, mais attends, sérieux.
Au moindre gramme d'alcool pris, c'est déjà mauvais pour la santé. Je ne suis pas pour l'interdiction de l'alcool, mais je ne suis pas pour la banalisation de l'alcool. L'alcool, ça reste quelque chose à boire avec modération. Et tenir un discours de dire c'est les vacances, c'est une faille spatio-temporelle, c'est le plaisir d'arriver et de savoir qu'on va partir en vacances et profiter avec ses amis, donc on s'autorise dès 6h du mat à boire de l'alcool. Les bars sont fermés à 6h.
Non, à Paris, je suis désolée, t'as des petits bistrots.
Mais là, vous prenez vraiment le cas extrême.
Où tu peux boire un café, mais si tu demandes une pinte à 7h du matin, on va te la servir,
évidemment. Le petit ballon blanc à 8h.
Soit, et donc ça soit dans un bar.
Ok,
très bien. Que ça soit dans un bar ou n'importe où, déjà, un, l'alcool, c'est mauvais pour la santé. Deux, l'alcool, c'est pas un amusement.
Arrête de boire, mais n'enlève pas les autres.
Attends, Juliette, considérer que pour profiter de la vie et s'amuser, c'est boire, c'est ça ta définition.
Mais je t'ai rien demandé.
Ta définition des vacances, s'il vous plaît. Oui. C'est fou parce que vous êtes en train de tenir un discours de dire que pour s'amuser et profiter de la vie, il faut picoler.
Non, mais tu as le droit. Tu peux boire.
Entre les lignes, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que moi qui ne veux pas boire d'alcool, je suis peine à jouir.
Ça, moi je bois pas une goutte, je m'en fous, mais j'ai pas envie d'emmerder Juliette si elle veut se faire son petit verre demain à 8h du mat. Je vais pas aller lui casser les pieds pour ça, quoi.
Déjà, si elle fout pas le bordel dans l'avion,
si elle fout le bordel dans l'avion, alors là je veux qu'elle prenne cher.
Vous prenez un cas extrême de 8h du mat alors que le PDG de Ryanair, il veut juste interdire l'alcool.
Le PDG de Ryanair dit le problème, il est en fait, c'est quoi? C'est le problème des voyageurs qui font, vous savez, un aller-retour en une journée, genre en Irlande pour un match de rugby, et qui reviennent, en fait, ils ont pas dormi de la nuit et le matin ils continue à s'arsouiller à l'aéroport pour rentrer à Paris ou je ne sais où. Et c'est des vols pas chers, etc., qui autorisent ça. Ouais. Et en fait, il dit que le problème, effectivement, c'est l'alcool. Le matin, par des gens qui certainement n'ont pas dormi de la nuit, ont fait la fête toute la nuit.
Faut leur refuser l'accès à l'avion s'ils sont bourrés.
Eh ben exactement. Est-ce que la solution c'est pas des alcotests avant d'entrer dans l'avion?
D'accord, qu'il faut sanctionner. Et je vous rejoins très lourdement qu'ils s'en souviennent toute leur vie lorsqu'ils seront responsables d'un débarquement en avion. Évidemment, là-dessus on est d'accord. Mais d'un autre côté, je récuse le discours de la banalisation de l'alcool et de la liberté de pouvoir picoler à 8h du mat.
Oui, mais après, Pierre, je suis désolée, je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent l'ont peut-être fait.
C'est un argument?
Attends, c'est le début des vacances. Juste, voilà, tu viens de terminer le boulot.
Forcément 8h du mat.
T'as bossé pendant 2 mois et juste, tu t'offres avec ton compagnon ou avec ta meilleure amie une coupe de champagne. Je vois pas. En fait, voilà, personne n'a normalisé l'alcool. Personne n'a dit que c'était bien. Personne n'a dit que quand on buvait pas d'alcool, on n'était pas cool. C'est juste que, voilà, sur les. On a quelqu'un qui
essaie de
Ryanair, le patron Ryanair. C'est juste que voilà, il y a effectivement, il y a prise d'alcool totalement inconsidérée qui entraîne des retards d'avion, etc. et tout. Et puis la petite coupette que tu peux une fois de temps en temps t'autoriser.
J'entends, mais encore une fois, c'est ce discours de dire que voilà, c'est le début des vacances, on va se
donc c'est l'interdit partout.
Arrêtez de me prendre pour quelqu'un qui veut tout interdire. Je dis simplement qu'il faut arrêter ce discours très franco-français d'associer forcément alcool à
personne
plaisir.
C'est
un plaisir, sinon on le ferait pas.
Non, mais ce qui est surprenant pour soutenir Pierre, c'est d'associer avion à alcool. Personne boit une coupe de champagne ou s'arsouille sur le quai de la gare quand il prend son TGV des vacances.
T'as raison.
Pourquoi on associe
on
ce
part
truc
moins loin peut-être.
J'arrive alors, à l'aéroport, alors, c'est parti pour la bière, le
et alors une fois
etc.
qu'on écoute ce que on
mais entend,
ce
part,
c'est
bon,
on peut considérer que le comportement des passagers, c'est extrêmement important dans l'avion, encore plus.
On pourrait pas parler dans un train ou dans
C'est oui, tout. Mais on est dans un cadre où le comportement des passagers est essentiel. Quand on est dans un avion, on passe son temps à nous dire « Restez bien assis, mettez votre ceinture, etc. Il faut pas que ça moufte. » Et c'est le seul endroit où on se dit « Ah bah là, personne picole avant un voyage. Personne se dit « Tiens, on va faire 8 heures de route, je suis passager, donc je vais me boire 3 coupes de champagne
et
avant de prendre la route. »
Personne ne boit du jus de tomate avant de prendre le train non plus, alors qu'on en prend en avion.
C'est vrai.
Ouais, mais bon, moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai jamais eu personne bourré dans un avion. Peut-être une fois en 5 ans. Donc c'est rare.
Tu prends beaucoup Ryanair ou les low cost.
Alors peut-être que sur ce vol-là, parce que ça se réfère à des voyages de jeunes qui vont se bourrer la gueule et tout ça. Bon, ben ok.
Moi, je l'ai vu sur Vueling dans un voyage pour Ibiza. J'ai halluciné de ce que j'ai vu, mais attention, l'avion était en retard. C'est-à-dire que l'avion, il avait 3 heures de retard. Et donc, grosso modo, mais ça n'avait rien à voir avec les bars. Personne n'est allé picoler au bar. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens? Ils sont allés chercher des bouteilles en duty free.
Ah bah, ça, c'est
en fait, tout simplement. Alors, je ne sais pas par quel miracle. Arrive,
hein. C'était les gens ou Estelle? Est-ce que Estelle faisait partie des gens?
Non, mais non.
C'est le moment d'avouer. Mais la prescription, Estelle.
Non, mais j'ai peut-être bu un verre ce jour-là parce que l'avion était en retard.
Mais c'est ce qui va se passer s'il y a interdiction. C'est que les gens continueront à boire soit en amenant leur propre bouteille d'alcool, soit en allant au duty free. Oui. C'est pour ça que la solution, c'est plutôt de les empêcher de monter à bord et de sanctionner très gravement.
Alcotest.
Alcotest, tu montes à l'alcotest, bim, c'est terminé. Si tu sais que tu vas rater ton voyage, tu vas être bien emmerdé.
J'ai ce discours très santé publique, non à l'alcool et consommer avec modération. Je veux quand même avouer que la seule fois où j'ai bu dans un aéroport, et vous parlez des salons, j'ai une fois été surclassé. Et c'est vrai que dans les salons, il faut le dire aussi, dans les salons, c'est alcool
c'est
à volonté gratuitement.
Tout
est comme dans les loges au stade.
Exactement.
Et personne ne réclame de
dans
les loges.
Bien sûr. Donc
Charles, on a des messages. Tiens, sur le WhatsApp d'Estelle Midi.
Oui, vous êtes nombreux à réagir. Bon, alors j'ai Kiki qui nous écrit, mais c'est très simple. Le patron de Ryanair veut juste vendre ses bières à 10 balles à bord de l'avion et donc que personne n'ait picolé avant de monter à bord. C'est très commercial. Voilà ce qu'il en pense. Dagour nous dit, mais l'alcool, c'est mauvais pour la santé. Et ensuite, il faut supporter ceux qui sont bourrés et dans l'avion. Évidemment qu'il faut limiter l'alcool à l'aéroport. À l'inverse, Jean-Christophe nous dit, des hygiénistes du plateau qu'on sanctionne les rares fautifs, mais qu'on laisse tranquille les autres qui veulent voyager en toute liberté et qui sont responsables.
Et alors, il y a un autre problème de l'avion par rapport au train, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur en avion et il y a certaines personnes, en fait, qui pour... Et c'est pas bien, alors là, voilà, et ça ne justifie rien.
Valium, cocktail de Valium et de whisky.
Oui, ça, c'est pas bien.
Mais qui
se disent, tiens, on va boire un verre pour être un peu plus zen et c'est pas une bonne idée, mais c'est vrai que ça, personne n'a peur en train. Personne dit, oh là là, moi, j'ai un voyage en train, j'ai tellement peur, je vais
Les claustrophobes, si peut-être.
C'est assez rare.
C'est vrai que Thomas nous écrit sur WhatsApp. J'ai longtemps bu un ou deux verres avant de prendre l'avion, juste pour éviter les crises d'angoisse. Mmh. Mais j'ai jamais emmerdé personne à bord. Il faut savoir boire aussi, savoir se contrôler avant de prendre l'avion.
C'est l'immense majorité des gens. On peut pas avoir ce débat en parlant que des cas extrêmes de mecs qui se bourrent la gueule à 8h du matin. C'est quand même pas
un avion.
Ça ne représente pas.
Un avion détourné par jour.
Oui,
en fait, c'est ce que dit Michael O'Leary. C'est à l'époque quand il a pris la présidence de Ryanair, il y avait un avion toutes les deux semaines, grosso modo, qui était détourné pour ce genre de problème. Aujourd'hui, c'est un par jour.
Ouais, mais c'est surtout sur les mêmes trajets, quoi. Donc, il faut peut-être être vigilant sur ces trajets.
Il faut faire gaffe à l'embarquement. Il faut faire gaffe à l'embarquement. Si vraiment ils notent une augmentation des avions détournés, ça veut dire qu'ils ont laissé monter à bord un gars qui, franchement, devait déjà être bien amoché quand même.
Je sais pas si légalement on a le droit de te faire souffler avant de monter ou on a le droit de te refuser.
La compagnie. La loi, ça se change déjà d'une part, et la compagnie aérienne devrait mettre dans ses règlements, nous ne laissons pas monter à bord un type qui est bourré, avec un certain taux d'alcool.
JP propose une autre version, il dit plus simple que l'alcool, supprimons les Anglais dans les avions, et tout ira beaucoup mieux, nous propose JP qui fait un peu d'humour.
Je pense que les vols Angleterre et Ibiza sont concernés.
Oui, il y a des vols plus à risque que d'autres.
Le Manchester et Ibiza, l'alcoolémie moyen, un peu plus élevé que l'autre.
Sur le retour ou l'aller? Les deux.
Jean-Christophe est avec nous. Vous avez lu son message il y a un instant.
Ah oui.
Charles, justement, Champignol, les Mondeville, dans l'Aube, il est viticulteur. Alors, évidemment, Jean-Christophe, ça va pas vous arranger tout ça. Bonjour, Jean-Christophe.
Bonjour tout le monde. C'est quoi ce rapport entre viticulteur et alcool?
Aucun.
Bon, a priori, les gens ne se pochetronnent pas avec du Saint-Émilion, quoi. Bon.
Ouais, non. Moi, ce que je disais, j'étais un peu sur la même ligne que votre premier intervenant tout à l'heure, c'est que pourquoi on doit priver tout le monde parce qu'il y a 2, 3, 4, 5 abrutis? Pourquoi encore sanctionner tout le monde sur sur punition collective, parce qu'il y a 2-3 abrutis ou 4-5 abrutis qui savent pas gérer, quoi. On a qu'à faire des vraies sanctions. Comme disait Daniel tout à l'heure, celui qui veut boire un coup avant de partir en avion, si derrière, il dérange les gens, il fait n'importe quoi, il faut des sanctions, mais des sanctions très importantes pour pas que ça recommence, marquer le coup, quoi, en fait, la valeur d'exemple, quoi. Ce qu'on fait plus trop maintenant, quoi.
Oui, mais Jean-Christophe,
pour tout éviter.
Imaginez, vous décidez d'aller à Ibiza avec votre meilleur ami, vous prenez un Ryanair, et le Ryanair, au bout d'une demi-heure, à cause d'un mec bourré, il revient à son aéroport d'attache. Donc en fait, vous, vos vacances, elles sont bousillées, et en fait, vous allez pas être remboursé. Enfin, c'est une catastrophe. Et là, vous me dites, il faut que celui qui a créé ça, il soit sanctionné. Mais vous, ça vous rendra pas vos vacances. Donc s'il y a pas d'alcool en vente, vous avez pas ce genre de désagrément, etc. Moi, franchement, si mes vacances, elles sont bousillées à cause d'un mec qui s'est harcouillé à 8h du matin, je vais être très 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 énervé, et moi qui paye 1 000 € d'amende ou 10 000, j'en ai rien à faire. Moi, mes vacances, elles sont foutues. Alors qu'effectivement, si on interdisait l'alcool ou des alcotests, moi je serais plutôt favorable aux alcotests à l'entrée en avion, ouais. Mes vacances, elles seront pas bousillées. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire?
Par exemple, l'alcotest, ça peut être une très bonne solution. Ouais. Ça peut être une très bonne solution, ça je suis d'accord. Par contre, là, vous dites, mais moi quand je parle de vraies sanctions, mais moi je vais peut-être un peu extrêmement les sanctions, c'est que le gars, il y a une assurance, au bout d'un moment, c'est que. Il rembourse tout le monde. Ça, vous verrez, ça arrivera une seule fois. Le
mec, mais vos vacances, elles sont ratées quand même, Jean-Christophe. Si vous deviez partir en week-end, c'est fini, hein.
Oui, mais c'est pas grave. Ça, c'est
des
on en retrouvera. Mais c'est pas grave. Quand je parle de vraies sanctions, c'est qu'au bout d'un moment, c'est comme ceux qui vont envoyer les secouristes à la montagne à cause d'eux, ils risquent leur vie. Au bout d'un moment, il faut payer le vrai truc. Ça coûte 20 000 balles. Tu fais un crédit, t'es dans la merde pendant 10 ans ou 15 ans. Ouais, vous verrez quand ça passera à la télé. Il y aura une fois, deux fois, au bout d'un moment, ça va s'arrêter.
Ouais, mais moi, ça ne me rendra pas mes vacances. Donc, je préférerais que cette personne, elle ne monte pas dans l'avion.
Les vacances, on peut en prendre régulièrement. Il faut arrêter. C'est pas comme si on partait une fois tous les 20 ans.
Oui, alors, mais
après, la question qui se pose, c'est l'alcool à bord. Est-ce que si on fait l'alcotest, machin, le mec il monte, il est sain, mais l'hôtesse
il a acheté une bouteille en duty free et
personne ne boit une bouteille en duty free dans l'avion quand même.
Dans l'immense majorité des cas, tout se passe très bien dans les avions, donc
un par jour. Vous voyez, un détourné par jour.
Mais sur combien d'avions dans le monde?
Ah oui, peut-être.
Mais combien d'avions dans le monde?
Est-ce que vos séjours et vos vacances sont ruinés si à l'aéroport on vous dit désolé, on sert pas de whisky à bord?
Non, c'est une question de principe. C'est une question de principe. Les principes, c'est important.
Merci Jean-Christophe en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On termine avec des messages sur le WhatsApp, Charles.
Une certaine Estelle qui salue l'idée d'Estelle, des alcotests, avant de monter dans l'avion.
Je n'ai pas écrit.
D'écrire discrètement en direct. Yann nous dit, oui, certes, il y a plus d'avions déroutés aujourd'hui à cause du comportement des passagers, mais surtout parce qu'il y a beaucoup plus d'avions qu'il y a 20 ans. L'avion s'est démocratisé de plus en plus de passagers. Julien nous dit, moi, je suis solidaire avec l'histoire d'Estelle. En duty free, c'est souvent la fête du slip. Le problème, ce n'est pas qu'on boive un verre ou deux à l'aéroport. Le problème, c'est les gens qui ne savent pas se tenir en général. Et ce sont les mêmes qu'on retrouve désormais dans les avions, nous dit Julien. On vous a posé la question à Ryanair qui voudrait interdire l'alcool dans les aéroports. Bonne ou mauvaise idée? Vous êtes 65% à penser que c'est une bonne idée.
Ah, quand même. Ah, ouais. Ben, vous voyez, j'attendais pas ce chiffre-là. Il est 14h22. Vous êtes sur RMC dans Estelle Midi. Et tout de suite, c'est l'heure du tu préfères.
RMC, Estelle Midi.
Tu préfères.
Et sachez qu'on s'est beaucoup creusé la tête ce matin sur ce tu préfères qui n'est pas facile. Tu préfères olive noire ou olive verte? Daniel Riolo, vous qui êtes un peu notre guide culinaire, notre guide suprême culinaire à tous, Daniel Riolo.
Olive noire.
Ah. Dans tous les secteurs, genre la tapenade olive noire.
Tu préfères, il faut répondre obligatoirement. Et c'est sans développement, c'est à chaque fois, ça t'agace quand on développe. Pour cuisiner, l'olive noire, tu fais plus de choses avec. Donc je suis allé à le plus de choses que tu peux faire avec quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai choisi olive noire. Et même à manger comme ça en apéro ou lors d'un repas, l'olive noire, elle passe avec plus de choses que l'olive verte. J'aime bien les deux, moi.
Pourquoi on met des olives noires et pas des olives vertes sur les pizzas?
Ça cuit mieux.
D'accord. Eh bien, on ne savait pas.
C'est mieux, le goût, tout.
Alors que l'olive verte est bien meilleure dans un tagine de poulet aux olives, bien sûr. Alors, Juliette Briens.
Olive verte à l'apéro, olive noire en cuisine. Donc, comme je suis très peu grignotage, je choisis les olives noires. parce que ça donne un goût extraordinaire à certains plats. Les olives à la grecque, la tagliache, comment c'est trop bon dans des pâtes au chorizo, ça change tout un plat. Et donc,
tu peux en redire tes olives noires, comment elles s'appellent, tes olives noires?
Non, elles sont pas tagliache.
Olives noires à la grecque de quoi?
Tagliache,
c'est une région en Italie et c'est pas grec du coup.
Ah oui, ça c'est l'Italie. Alors, comment ça s'appelle les olives noires à la grecque?
Voilà.
Exactement. Excusez-moi.
Ah bah,
j'ai pêché sur les olives. Kalamata,
le sens du détail.
Mais je t'excuse, mais soyons précis, quoi.
Non, non. Alors les kalamata, mais les tagliache aussi d'Italie. Ça donne un goût extraordinaire à tes plats. Tu peux les mettre évidemment dans. Tu peux les mettre dans plus de choses que les olives vertes.
Tu vas dire le foie gras du bourricor?
Même si les olives vertes fourrées aux anchois et au piment, là, j'adore ça.
Ah non, à l'amande. Les trucs bien industriels, les olives vertes fourrées à l'amande. Pierre Rondeau.
Je suis désolé, moi je vais casser ce débat parce que vous êtes très compétent, très spécialiste, avec beaucoup de choix.
Je me suis bourré sur Kalamata.
Ah, ça y est, il mange pas d'olives.
Non, mais j'aime pas ces chips, ça. J'aime pas, je suis pas trop fan d'olives. Et comme il fallait que je réponde, j'ai dit olives noires parce que c'est celle qu'on trouve dans les pizzas. Voilà.
Alors, elle ne pousse pas sur les
pizzas. Est-ce que vous êtes du genre?
La seule fois où je mange des olives, c'est quand je mange des pizzas.
Je suis sûr que vous ne mangez pas le trottoir des pizzas non plus.
La croûte?
Ouais.
Le trottoir, alors, comme c'est mignon.
Quoi?
Alors non, pardon.
Bah, tout le monde dit le trottoir, mais tout le monde dit la croûte.
Alors, Daniel. Non, on dit pas le trottoir.
Oui, voilà.
Non, on dit pas le trottoir.
Personne.
Non, on dit pas ça. Et toi, tu dis ça, mais on dit pas ça. Et puis si tu le laisses dans l'assiette, c'est-à-dire tu manges plus en face de moi.
Excusez-moi, mais alors pardon d'avoir un vocabulaire culinaire. On dit le trottoir de la pizza.
Personne dit le trottoir d'une tarte si t'as envie, mais pas de la pizza. Personne dit ça en Italie. Personne parle pas de trottoir, ça n'existe pas.
Écoutez, si en Italie vous ne savez pas les
Même en France.
Écrivez-nous sur le WhatsApp.
0612 424 424, évidemment.
Il n'y a pas de trottoir, jamais de la vie. Bah, si c'est le trottoir, si t'en viens avec une tarte, une quiche ou ce que tu veux,
Mais si ça existe. Et puis ça dit bien ce que ça veut dire.
Non, ça ne dit rien.
C'est mignon, mais c'est personne.
Mais écoutez, si vous avez un vocabulaire court, c'est votre problème, mais n'en dégoûtez pas les autres.
Mange la croûte.
Excusez-moi, il y a une richesse de la langue française.
Mais je trouve que la pizza, c'est pas français.
Non, mais parlez de vos croûtes si vous voulez. Moi, je parle du trottoir de la pizza.
Mais je suis sûr que personne ne dit
mais
ça.
Mais tout le monde
dit trottoir.
On va
poser la question sur les réseaux, vous allez voir que personne.
Mais bien sûr que oui.
Et surtout, et vous... ça se mange. Bah, ceux qui le laissent, c'est qu'ils ne comprennent rien du tout.
La pizza napolitaine avec la croûte épaisse. Aérienne, magnifique.
Non, évidemment. Romaine, pas la
mandarine. Non, napolitaine. Chaud, napolitaine.
Romaine. Voir new-yorkaise à l'américaine. Ces grandes pizzas.
Tu vois les.
Voir surtout, tu connais rien.
Oh, Daniel, enfin, c'est incroyable.
New York,
ils font les meilleures pizzas.
Quoi, alors,
non, mais là, ça y est, il est restaurateur maintenant.
Non, mais la raison, Daniel a raison, c'est les napolitaines les meilleures. Point. Fin du débat.
Écoutez, excusez-moi, Charles.
Il n'y a que de la croûte, c'est chiant.
Là, je vous vois crouler sous des centaines de messages pour dire oui au trottoir.
Je les lis dans l'ordre. Vas-y, Estelle, pas de truc. Bastien nous dit, personne n'a jamais dit ça. Estelle nous écrit Bastien.
N'importe quoi.
À l'inverse.
Il appelle d'où Bastien?
Cédric de Nantes nous dit, oui, on dit bien le trottoir. Véronique nous dit, moi aussi, j'ai déjà entendu trottoir. Nicolas nous dit, tant qu'on y est, on peut appeler ça la bordure. Lionel nous dit, oui, on peut le dire, mais ça se dit. Estelle a raison aussi, nous dit Laurent.
Bien sûr.
Oui, on peut dire trottoir, mais. Mais jusqu'à l'âge de 12 ans seulement. Première fois que j'entends ça, nous dit Wilfried.
Enfin.
Il paraît qu'Estelle marche sur sa pizza. Est-ce que Estelle traverse, regarde sur les côtés en traversant sur sa pizza? Il y a beaucoup de vannes autour du trottoir depuis tout à l'heure sur le WhatsApp. Je suis désolée, Estelle.
Moi, je traverse ma pizza pour aller trouver du boulot.
Peut-être qu'on dit ça dans les manoirs en Bretagne, se demande Baptiste, mais pas dans le reste du pays.
C'est quand on est un peu éduqué, c'est tout, pardon.
Oui, oui,
voilà. Et qu'on a du vocabulaire.
Quand on sert ta pizza dans ton manoir, en Bretagne, quand ton domestique vient et dit Madame Denis, voilà votre pizza et son trottoir. Confie-nous, que dit Nestor quand il fait ça à domicile?
Non, mais j'ai même plus envie de vous répondre. C'est même... Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi.
Oui, notamment dans le sud de la France.
Voilà.
Ils disent Anne, on entend ça parfois dans le sud. Mais le reste de la France se marre beaucoup sur le WhatsApp de l'émission.
Bah, écoutez, j'ai déjà une région avec moi. C'est déjà ça.
Bravo.
Et ce n'est pas la plus moche des régions, si je peux me permettre.
Que voilà. Comment on est arrivé de l'olive noire à l'olive verte au trottoir,
disons. Parlons de pizza.
C'est la pizza.
Parce que le pont, c'est la pizza. Mais j'étais perdu dans le fil.
Bien sûr. Alors, en tout cas, on vous a quand même posé la question sur les olives noires et les olives vertes.
Et ce sont les olives vertes qui l'emportent largement sur nos réseaux à 64%.
Dans un instant, on parle de miel. Dans Estelle Midi, vous savez que le miel, mais il y en a de toutes les sortes. Et c'est parfois très difficile de choisir un bon miel. D'autant plus que c'est très peu réglementé comme aliment. Mais heureusement, Charlotte Méritant va venir nous voir dans un instant et va nous dire comment choisir bien son miel. Là, tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 14h31, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, et tout de suite c'est RMC Conso avec Charlotte Méritant.
Estelle Midi,
RMC Conso.
Et Charlotte, aujourd'hui, vous nous aidez à bien choisir notre miel, parce qu'en rayon, c'est la confusion totale. Les étiquettes sont souvent trompeuses. On ne sait jamais quel est le bon miel, le mauvais miel. Mais ça, ça devrait changer à partir du mois de juin.
Oui, parce que le miel, c'est vraiment le produit qu'on achète tous et sur lequel on peut tous se faire avoir. D'ailleurs, démonstration. Je vous ai ramené du miel. Je vous ai ramené plusieurs pots. On va faire le comparatif entre deux. Alors, j'ai un miel, je vous décris, qui écrit miel bio, miel de montagne, non pasteurisé, avec une jolie étiquette. Et puis l'autre, miel d'acacia, liquide et délicat. Il y a quand même un drapeau français dessus. Mmh. Et Estelle, vous avez choisi lequel?
Le miel de montagne.
Et en fait, le miel de montagne, qu'est-ce qu'il y avait dessus qui aurait dû nous alerter?
Eh oui, en regardant bien la petite ligne, il y avait marqué Mexique.
Exactement.
Ça veut dire les Mexicains savent pas faire de miel?
J'ai pas du tout envie d'acheter du miel mexicain alors qu'on a plein d'apiculteurs français.
Non, mais ça veut pas dire qu'il est moins bon.
Oui, mais j'ai envie de faire travailler les apiculteurs français.
D'accord, mais c'est pas ça la question. La question, et si Charlotte est là, c'est pour nous dire. Alors, excuse-moi, Charlotte, peut-être je dis une bêtise, mais le miel peut venir de l'étranger et être bon.
Oui, la question, c'est pas de savoir s'il est moins bon ou pas, c'est plus est-ce que le marketing nous induit en erreur ou pas.
Ça, j'aime ça.
Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut se faire avoir. Un marketing qui peut être trompeur.
Ça fait toujours avoir ça.
Sans être Alors, il faut dire quand même, je précise que j'avais travaillé sur ce sujet il y a 2 ans. Et ça a beaucoup évolué depuis. C'est vrai qu'en rayon, on trouve quand même beaucoup moins de mentions trompeuses. Par exemple, j'ai remarqué que sur un pot de miel qui venait pas de France, il y avait un drapeau européen, ce qui nous laisse penser qu'effectivement, ça vient pas de France. Malgré tout, il y a encore une petite carte de France dessinée. Bon, je vais vous donner les 3 points sur lesquels vous devez être très attentif quand vous êtes au supermarché et que vous choisissez votre miel. Le premier, c'est quand il y a une mention pure et naturelle. Bon, ça, c'est parfois indiqué sur les pots et c'est un petit peu mensonger dans le sens où on a l'impression que c'est une meilleure qualité, alors qu'en fait, tous les miels sont par définition 100% purs et naturels.
Oui. Donc, le pot, on ne prend pas le pot?
Tu peux le prendre, mais en tout cas, il faut juste savoir que quand on dit c'est pur, incroyable, ça n'a rien d'incroyable. Tous les miels le sont, ça ne sert à rien, c'est une allégation inutile.
Il y a jamais. Très moche ce pot.
Il est un peu en plastique. Il y a jamais d'adjonction de sucre dans le miel. Le deuxième point auquel vous devez faire attention, c'est quand il y a écrit les mots apiculteur ou une photo même d'un apiculteur sur le pot. Ça veut absolument pas dire que ça a été récolté par ce monsieur-là en particulier.
Ça, faut le savoir. C'est comme Minova, c'est pas forcément.
Ah bon?
Oui, alors.
C'est pas la laitière qui fait les yaourts non plus.
Et Justin Bridoux n'a jamais fait de saucisson. Vous rigolez, mais ça, c'est un bon sujet. Il y a quand même des marques sur lesquelles il y a des noms qui existent vraiment. Hein. Mais pas Justin Bridoux, bref. Et le dernier point, c'est une mention qui laisse croire que le miel est français, donc carte, drapeau, etc. Alors qu'en général, quand c'est écrit ça, eh bien, ça veut dire que seule la mise en pot a été faite en France. Il faut que ce soit vraiment écrit récolté en France pour être sûr que ça vient de France.
C'est écrit quelque part quand même la provenance du miel?
Quand c'est français, ils le mettent en avant via un drapeau, etc. Ça, c'est sûr et certain. Sinon, oui, c'est écrit, même quand ça vient de l'étranger, c'est obligatoire. Soit le pays précis quand le miel vient d'un seul endroit, soit la liste des différents pays quand il vient de plusieurs endroits, soit parfois encore UE, non-UE. Alors ça, ce sont des mentions qu'on ne trouve quasiment plus et c'est tant mieux, puisque ça va être interdit à partir du 14 juin. On ne pourra plus trouver ça. Toutes les marques devront préciser tous les pays d'où viennent le miel précisément, avec même le taux de pourcentage pour chaque miel. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Comment ça se fait qu'il y ait des pots avec plusieurs miels à l'intérieur?
En fait, ça tient au commerce du miel. En fait, ça se fait à un niveau mondial. C'est la différence entre un apiculteur récoltant qui, lui, va tout simplement récolter son propre miel et le mettre en pot. Là, vous êtes sûr que ça vient que d'un seul endroit. Ou un simple conditionneur qui va aller acheter divers miels auprès de grossistes du monde entier pour les assembler ensemble et les assembler et réduire au maximum les coûts. Le mélange de miel en soi, c'est pas tant ça le problème, parce que ça peut être intéressant en termes de goût, de mélanger plusieurs miels, ou en termes de stabilité. Vous avez des miels qui cristallisent plus que d'autres. Ouais. Donc, mélanger un miel très liquide avec un miel qui peut cristalliser, ça peut aider à conserver une bonne texture. Le problème, c'est plutôt la traçabilité de tous ces miels assemblés.
Et donc, en fait, on peut pas du tout savoir si les miels sont de qualité.
Quand il y a un problème de traçabilité comme ça, non. Et c'est un vrai problème, sachant qu'il y a eu une enquête de la Commission européenne qui a démontré qu'une grosse partie des miels chinois, turc ou encore mis en pot au Royaume-Uni était frelaté, c'est-à-dire qu'on a souvent rajouté du sirop de sucre. C'est plus du miel, je vous l'ai dit, le miel ça peut provenir
que des abeilles, il peut pas y avoir quelconque ingrédient ajouté, sinon c'est plus du miel. Dès le mois prochain, on saura précisément d'où vient le miel, ça nous permettra de choisir en connaissance de cause, sachant qu'évidemment, un miel 100% origine France, ça coûte bien plus cher et vraiment les prix sont aberrants, hein. On est au moins à 15 euros le kilo de miel récolté en France, ça peut même monter à 20, 30, 35 euros.
Donc le prix,
ça sert à rien. Oui, quand même. Alors j'allais dire, ça sert à rien d'y mettre 30 euros le kilo non plus, mais il vaut mieux y mettre autour de 15 euros. Parce que en dessous de 10, vous êtes quasiment sûr d'avoir un
le
miel
kilo.
De pas. Oui, le kilo, bien sûr, on parle en kilo parce qu'il y a des contenants différents. Mais
et après, est-ce que quand on voit que le miel est dans un pot en plastique, par exemple, vous savez, un truc un peu flexible,
oui.
Est-ce que ça, c'est quand même un indicateur qu'a priori, c'est pas le meilleur miel qui soit, quoi.
Bah, le plastique, c'est pas dans tous les cas le meilleur contenant qui soit, donc on peut se poser la question. Après, ça veut pas forcément dire grand-chose sur la qualité du miel en lui-même. En revanche, si vous voulez vraiment un indicateur sur la qualité, vous pouvez suivre un label, par exemple, indication géographique protégée, ça vous garantit que le miel a été fabriqué en suivant un cahier des charges précis, etc. Le label bio, pourquoi pas? Alors, il y en a qui disent, comment on peut savoir si du miel est bio? On maîtrise pas ou butine les abeilles. Alors, si quand même, les apiculteurs, en général, bah, ils s'arrangent, ils font en sorte que les abeilles butinent qu'il n'y ait que des arbres bio autour de leur zone, autour de la ruche. Et en fait, il faut savoir que les abeilles, elles ne butinent qu'une seule espèce de fleur à la fois. Donc ça garantit aussi qu'un miel est d'acacia, de lavande, de que sais-je.
Merci beaucoup Charlotte Mériton pour toutes ces infos sur le miel à réécouter en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes de téléchargement. Dans un instant, les immanquables de Charles, à tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est 14h42, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Dans un instant, les immanquables de Charles. Mais tout de suite, on vous fait gagner des super vacances sur RMC.
Oui, quel plaisir toute la semaine de vous offrir vos prochaines vacances sur RMC dans les clubs et hôtels Bellambra. Des séjours d'une valeur de 2000 euros. Il y a 45 destinations à choisir. Bellambra s'occupe de tout. Vous nous envoyez un petit SMS avec le mot vacances au 732-16 et vous êtes tiré au sort.
Et c'est le cas de Léa qui est avec nous depuis Sergi-le-Haut. Léa, elle est contente d'avoir gagné des vacances. Là.
Ah oui, super, bonjour Estelle.
Bonjour Léa, on vous envoie en vacances avec RMC, c'est vous qui choisissez l'endroit Léa, la montagne, la campagne ou la mer?
Ah la mer.
En tout cas, ça vous fait plaisir de partir en vacances, hein?
Ah oui, j'ai parti avec ma meilleure amie, c'est génial.
Oh, écoutez, super, et on est très heureux pour vous.
Ah,
Léa, merci d'avoir joué avec nous.
Et bonnes vacances.
Et vous continuez.
Merci à vous, merci beaucoup.
Bravo Léa, et comme Léa, si vous voulez partir en vacances, RMC vous les offre, mais il suffit d'envoyer un petit SMS, le mot vacances par SMS au 732-16, et toute la semaine, on vous offre vos séjours Bellambra.
Gagnez vos vacances sur RMC avec Bellambra. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Les immanquables de Charles, et on commence, tiens, avec l'ego du jour.
C'est l'ego des Français. Ce sondage passionnant, 59% des Français sont incapables d'entendre une vérité brute sur eux-mêmes. Sondage mené par Masterclass. Daniel Riolo, à peine 41% des Français accepteraient qu'on leur dise une vérité rude, même si elle pouvait les aider à avancer. À l'inverse, une proportion quasi équivalente, 42% préfèrent éviter cette confrontation, se méfient fortement des critiques que pourrait leur faire leur entourage. 69% des Français disent avoir déjà été déstabilisés par une critique inattendue et 23% préfèrent changer de sujet. 21% en revanche estiment que c'est important, qu'il faut s'expliquer, se justifier et discuter, que la critique en fait est constructive.
Alors Daniel Riolo fait partie des 23% qui préfèrent déplacer le sujet en contestant la légitimité de la personne qui formule la critique.
Mais qu'est-ce que vous en savez?
Enfin Daniel...
Ah ben voilà, exemple concret.
Voilà. Mais enfin Daniel, je vous connais depuis 25 ans.
Mais tu ne m'as jamais critiqué, donc tu peux pas le savoir.
Non mais enfin je te vois évoluer.
Et celle, tu ne m'as jamais critiqué, tu ne peux pas savoir. Si tu le fais, j'accepterai, tu le sais très bien.
Vous acceptez les critiques?
Mais tout le temps. Après, il y en a peu.
Il y a un blanc.
Tu peux rien.
Pardon. Après, dans l'oreillette, on me dit pardon.
Même les critiques sur les réseaux.
Mais ça, c'est pas des critiques, ça.
Ah bon. Donc ça, 23% préfèrent déplacer le sujet.
Tu prends les remarques sur les réseaux pour des critiques.
En contestant la légitimité de la personne qui formule les critiques.
Très honnêtement.
Non mais Daniel, quelle est la critique qu'on vous fait le plus souvent?
En plus, quand on voit comment moi, toi, on est traité sur les réseaux. Oui, Estelle.
Bon, par exemple, Daniel, moi je vais vous faire une critique. Vous n'écoutez jamais les gens parler, par exemple.
Si, j'écoute tout le temps.
Non, pas du tout.
Bah,
non, vous n'écoutez pas.
Bah, c'est faux.
Et vous parlez à tort et à travers.
Ça, c'est ton avis.
Vous ne respectez pas les consignes.
Mais c'est pas vrai.
Bon, ok. Bon.
On en revient au premier chiffre du sondage. 6 Français sur 10 sont incapables d'entendre une vérité brute sur eux-mêmes. Mais je dois dire, Daniel a du soutien.
Qui détermine que c'est une vérité brute?
Daniel a du soutien à l'instant sur notre compte WhatsApp. Sur WhatsApp, au 0612 424 424, un certain Yann nous écrit: laissez Daniel tranquille avant de le critiquer. Essayez d'être aussi populaire que lui.
Magnifique. Bravo.
Merci Yann, il a raison.
Ah, lui, il a raison. Lui, on peut l'entendre, il est légitime.
Moi, j'accepte absolument toutes tes critiques, moi. Il n'y a aucun souci.
Juliette Brien, quelle est la critique qu'on fait le plus souvent?
Peut-être parler trop fort ou.
Ah oui.
Oui, trop crier.
D'être perfectionniste.
Non.
Moi, c'est en fait, je vais vous dire. Moi, les journalistes, tu es trop généreux, tu es trop
mauvais. Ne pas entendre les critiques, c'est un défaut que je n'ai absolument pas.
D'accord.
Sauf quand ça vient de ma mère.
Ah, voilà. Bah, elle est quand même la mieux placée.
Oui, mais justement, elle tape là où ça fait mal.
Ah, donc voilà.
Elle tape là où ça fait mal.
Ah, mais plein de trucs, que je me tiens pas droite, que je suis trop susceptible, des trucs.
Ça, c'est pas bien.
Voilà. Mais donc, du coup, j'accepte pas. Il faut toujours qu'elle me le rabâche pendant quelques mois pour que finalement j'accepte qu'elle ait raison.
Et toi, t'acceptes les critiques, Estelle?
Ah, moi, sans problème.
Ah oui? Mais on t'en fait beaucoup?
Bah, quelques-unes,
Pas trop.
Ah bah si on m'en fait quand même.
Ah
si,
bon si. Bah, tu me diras quoi alors, parce que j'ai pas l'impression.
Que je suis, et le mot n'est pas beau, mais chiante. On me le dit beaucoup.
Chiante.
Ah bah beaucoup, dans tous les univers, professionnels, personnels, bah, tout le monde, c'est à peu près.
Oui,
regarde Charles.
Ah, franchement,
on fait un sondage à main levée tous les matins.
Franchement, ça me plaît.
À 8h, est-ce que c'était les chiantes? Tout le monde lève la main.
Bah, on peut démarrer la journée. Moi, je me plains un peu trop aussi.
Ouais. Moi, je me fatigue
au bureau, je me plains beaucoup.
À la fin de la journée, je suis fatiguée de moi.
T'es un peu une chouineuse.
Je me plains pas mal. Il faut que j'extériorise quand un truc me saoule. Ça peut être négatif.
Pierre Rondeau.
Moi, je suis en demande de critiques constructives.
Ah bah, je peux vous en faire quelques-unes.
Ah, allez-y. Mais moi, j'ai besoin en permanence de me remettre en question.
Un chouïa trop rigide, Pierre.
Trop rigide, bah voilà. Donc
vous
prends.
Êtes assez peu en empathie.
Ok, je prends. Et je cherche derrière à m'améliorer, à avancer et à devenir même meilleur.
Moi, Pierre, je te trouve formidable.
Merci beaucoup.
Mais ça n'empêche pas. Voilà, mais Pierre pourrait faire preuve parfois peu plus d'empathie et de compréhension envers son prochain.
C'est meilleur, hein, mais enfin bon, le sujet.
Pierre est assez peu empathique.
Moi, ce genre d'enquête, très honnêtement, ce genre d'enquête, je comprends pas. Je sais pas qui répond comment, parce que l'histoire de la critique, qui la formule, dans quel domaine. Tu vois, je sais pas. Toi, demain, on va venir te dire et ça vient d'une personne qui a jamais fait ça.
Mais...
Dis donc, à la façon dont t'as lancé son sujet, t'es nul.
Bah pourquoi pas?
Bah pourquoi pas de quoi? C'est si la personne elle le sait pas, voyons.
Bah, elle peut avoir raison.
La critique est intéressante si la personne, non pas vous dit,
ah oui, si
hier
dit
c'est nul, ce que t'as dit c'est, tiens t'aurais peut-être dû
c'est
dire
constructif.
Ça, voilà. Ça c'est constructif.
Merci Charles. Exactement. De comprendre ce que je veux dire.
Charles, c'est quoi la critique qu'on fait le plus souvent?
T'as rien écouté ce que je viens de dire.
Ah oui, non.
Encore régulièrement à la maison. Et je suis obligé de reconnaître que parfois c'est vrai.
Charles est trop gentil. C'est ça, ça.
Ouais,
non,
quelle critique.
Il est trop,
oh, trop gentil.
Il est trop gentil. Il est pas assez dur. Souvent, je lui dis, va engueuler les chroniqueurs. Et il est. Il va reculons.
Voilà, faut que je te parle. Donc, voilà, elle m'a dit te dire.
Trop gentil.
C'est pas un défaut.
Ouais, faut voir. Le commentateur du jour.
C'est Michou. Le jeune streamer, créateur de contenu, commentera la Coupe du Monde sur M6. Il sera accrédité au bord du terrain, derrière le but, nous dit-on, d'où il fera vivre les rencontres des Bleus, notamment sur les réseaux sociaux. Rappelons que Michou a 11 millions d'abonnés sur YouTube. Il figurait en 2025 dans le top 10 des personnalités préférées des 7-14 ans, selon le journal de Mickey.
Voilà, il y a pas mal de journalistes qui se plaignent de cette présence.
Bah oui, des journalistes qui, sur les réseaux sociaux, disent « j'ai fait des études, je m'y connais en sport, en foot ». Et visiblement, Michou, qui est moins passionné de foot, sera lui bien au bord du terrain pendant la Coupe du Monde.
Pierre Rondeau.
Moi, j'ai deux problèmes avec ça. Il y a un problème de légitimité. Effectivement, ça a été dit, il est incompétent. En tout cas, il a moins de compétences qu'un quelqu'un qui a été formé pour et qui suit le foot, le sport depuis maintenant longtemps et qui a fait des études, qui a donné de son temps et qui cherche. Pour dire à quel point, il y a un nombre hallucinant de personnes que je vois, que je fréquente et que je rencontre à force de traîner dans les médias, de pigistes. De gens qui sortent de grandes écoles de journalisme et qui ont fait 5 ans d'études et qui, à 30, 35 ans, voire 40, continuent à galérer dans la vie parce qu'ils vont enchaîner des piges, ils vont parfois trouver un CDD, ensuite enchaîner avec des piges, et vivre dans une précarité constante et permanente pendant 10, 15, 20 ans. Et à côté, il y a un gars qui a 11 millions de followers, donc parce qu'il a 11 millions de followers alors qu'il n'y connaît absolument rien en foot et n'a jamais été formé pour commenter des matchs de foot, devient le porte-parole de la chaîne du principal diffuseur.
Mais c'est une chaîne privée, en fait,
elle fait ce qu'elle veut. Attendez, elle fait ce qu'elle veut, il a signé, elle fait ce qu'elle veut.
Il va pas commenter le match en direct, il va faire du contenu pour les réseaux, voilà.
Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a plein de gens que je vois tous les jours, que je rencontre tous les jours, qui sont extrêmement compétents, qui ont toute la légitimité pour le faire, qui ont fait 5 ans d'études et qui cumulent des piges, payer des clopinettes et qui galèrent à trouver ne serait-ce qu'une stabilité professionnelle et ils sont remplacés par...
Vous découvrez pas la télé, Pierre, quand même. Pardon.
Mais c'est ça que je déplore, c'est que ces gens-là devraient prendre la place de Michou. Michou ne devrait pas être là.
Oui, mais ce
Michou
serait moins populaire
reste...
auprès des jeunes.
Non, mais soit, mais Michou, c'est un streamer qui aille commenter des jeux vidéo.
Bah, écoutez, on est en train de juger.
Chacun,
en fait, on l'a même pas,
chacun
pas vu.
Dans sa case et surtout, on ne fait plus rien pour
d'ailleurs,
faire
Rondeau.
Alors déjà, avant de t'offusquer de la présence de Michou, bon, d'abord, Estelle a tout dit par une chaîne privée, elle fait le casting qu'elle a envie de faire. Et, de toute façon, diffuser du foot, c'est pas un rôle de journalisme, malheureusement. Parce que dans ces cas-là, qu'est-ce que tu penses du consultant qu'on met derrière les buts et qui dit rien ou qui dit n'importe quoi, parce que limite ça ne l'intéresse pas, il est venu là dans la pré-carrière et je veux pas te faire la liste pour pas divulguer des noms bêtement, mais tu vois très bien de quoi je parle. Qu'est-ce qu'on dit du présentateur ou présentatrice qui est juste connu et qu'on a mis à la présentation d'une soirée foot alors que le foot il y a 2 ans, il ne savait même pas si le ballon était rond. Et ça, on en a des pelletés, pareil. Voilà. Et le duo de commentateurs...
Il donnera pas de nom, là.
Pardon ?
Il donnera pas de nom ?
J'ai pas envie, parce qu'on va avoir... C'est pour toi que je le fais. C'est pour te protéger.
Ah, je croyais que tu parlais de moi, merci.
Ouais. On l'a tous entendu.
Pour le coup, je voulais la protéger pour pas que ça retombe dessus et qu'on dise il était la petite merde à balancer un nom.
Mais écoute, sinon, elle venait de loin.
Eh ben, écoute, tout simplement, c'est elle qui va présenter les soirées M6.
Non.
Bon, bah si, c'est juste la vérité, voilà. Bon, bref, ensuite, le duo de commentateurs qui va officier pendant la Coupe du Monde, c'est le même que sur Ligue 1+. Ok ? On a le droit d'aimer et de pas aimer. On fait ce qu'on veut. Sauf que un duo de commentateurs composé d'un journaliste et d'un consultant qui disent que leur façon de faire, ça ne sera que de mettre en avant une vision positive de l'événement. Bah, c'est pas du journalisme. Tu t'éloignes de la vérité. Et en plus, tu l'assumes.
On a un grand journaliste.
Tout ça est bien pire que la présence de Michou.
On a un grand journaliste qui nous rejoint, Pierre Dorian.
Que d'honneur, voilà. Estelle, dis donc.
C'est fou, ça. Ça va, Pierre?
Alors là, ça va très bien aujourd'hui, là, tu vois. Ah, là. Oui. Tu sais que ça dépasse toutes mes espérances. Là, c'est exceptionnel, parce qu'on est en train de vivre.
Bah oui, évidemment. Deuxième finale de suite.
En plus, mais ça, on a le temps d'en parler, mais deux finales de suite, t'imaginais ça?
Non.
Personne.
Ah non, c'est incroyable.
Magnifique, on en profite et c'est très bien.
À jamais les premiers à enchaîner deux finales.
Exactement.
Allez.
Écoute, j'aurais pas personnellement repris ce slogan-là, mais si tu veux, il n'y a pas de problème. Alors, on commence par quoi? Le PSG ou les vedettes? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a un des plus grands champions de l'histoire.
Oui, c'est vrai.
C'est incroyable.
Il est là, il vient?
Non, c'est à distance. Il est à Monaco.
C'est pareil.
Il est à Monaco, puisqu'il va participer au meeting de Monaco au mois de juillet, avec l'ambition de battre un nouveau record du monde. Donc, on va parler de tout ça, des 6m40.
Évidemment.
Tu allais faire les 6m40, toi?
Bah, moi, j'y crois. Il a un tel talent, c'est hallucinant. Possible. On ne sait même pas où est-ce qu'il peut s'arrêter. C'est complètement
fou. Il va faire 7m ou faire.
Non, bah, on verra.
Non, mais peut-être que dans un an, on va parler de 6m50.
Après, ça dépend aussi des perches, du matériel, etc. Donc,
moi, au bout d'un moment, ça me fatigue un peu quand il fait trop. Il est tellement énorme, j'ai envie qu'il s'arrête.
Mais c'est pourquoi il fait ça, Daniel. Okay.
Mais parce que chaque record amène un petit peu d'argent en plus ou un gros cadeau. Bah oui, c'est pour ça qu'il fait centimètres par centimètre. Mais c'était le cas de Sergueï Boubka également. À l'époque.
Voilà, on rentre dans le marketing, ça me saoule.
Bon, en tout cas, on va parler.
Armand Duplantis, c'est l'invité du Super Moscato Show.
Et bien sûr,
dire, Pierre, qui me fatigue un peu à faire ça.
On lui dira.
Et la qualification et non pas la victoire du Paris Saint-Germain hier, deuxième finale de Ligue des Champions consécutive. Merci beaucoup, Pierre Dorian, le Super Moscato Show. C'est tout de suite. Estelle Midi revient demain avec Charles Magnan à la présentation.
Bon week-end, Estelle.
Midi 15h. Je vais me confiner. Avec l'antivirus.
Dans le manoir.
Voilà. Oh non, dans la ruine. Allez, à demain sur RMC.